Azione!
J'aurais un petit mot à dire sur ce film, mais pas maintenant.
Il n'y a vraiment pas de quoi rire, là.
C'est vraiment un avis, ce film.
Vous voyez, c'est tout à fait bouleversifié.
Cinéma! Cinéma!
Vous ne trouvez pas ce film formidable? Moi, si. J'ai eu tellement pitié du malheureux monde.
Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde!
C'est un très beau film, j'en ai rien à foutre, mais c'est un très beau film.
On vit une époque formidable, Michel.
Absolument.
Tous les jours, on en a plein les yeux. T'es là, ouf.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Vous écoutez Le Comptoir du Cinéma, votre émission d'actualité cinématographique, renommée depuis quelques épisodes déjà Le Comptoir du Festival. Et le collègue est néanmoins Aubry et moi-même, nous sommes en ce moment assis sur la terrasse des journalistes à Cannes, en haut du Palais des Festivals. Et l'on entend les applaudissements du plateau de C'est à vous qui est en pas très très loin en contrebas, à Cannes donc, où la 79e édition du Festival International de Film est en train de toucher à sa fin. Dans un petit peu plus de 48 heures, voire dans 48 heures pile, le jury de Park Chan-wook remettra la Palme d'Or et dévoilera un palmarès dont on espère qu'il coïncidera, 8 jours de festival, ça commence à fatiguer, dont on espère qu'il coïncidera avec le nôtre. Et nous, eh bien, il nous reste encore 4 films de la compétition à aller voir, hein, c'est ça, Aubry. On est jeudi 21 mai 2026, Claire est partie hier matin, on commence à s'endormir un peu trop souvent en séance, et les pisses saladières des boulangeries canoises n'ont plus de secret pour nous, c'est parti pour le comptoir du festival. Les films du début de la compétition officielle ont cette année fait montre d'une semblable aspiration à filmer le quotidien, voilà, s'attachant à l'accidentel, à de petits riens plutôt qu'à de grands drames, et faisant du même coup le pari d'une forme modeste et sans grandiloquence. La vie d'une femme, quelques jours à Nagui et soudain, font ainsi l'hypothèse de la douceur et du banal. Ces 3 films refusent d'ailleurs plus ou moins franchement la progression linéaire de leurs intrigues, en déjouant d'ailleurs l'idée même d'intrigue pour préférer une suite de scénettes. Cela, les films le font de façon ostensible avec, dans les 3 cas, un chapitrage assumé et affiché pour conclure chaque fragment de quotidien. Donc vraiment, on est sur des scènes. Quelques jours à Nagui, pose ce couteau Charles Aloncle si tu nous entends, quelques jours à Nagui de Koji Fukada et soudain de Ryusuke Hamaguchi font ainsi débuter la journée de chacun de leurs personnages en affichant la date du jour qu'on va suivre. Dans le film de Fukada, un plan fixe sur un éphéméride chaque fois différent indique l'écoulement de la semaine que Yukiko vient passer chez la sœur de son ex-mari. Dans le film de Hamaguchi, des dates inscrites au Velleda sur un tableau blanc font défiler les jours selon une périodicité irrégulière où des ellipses de 2 mois peuvent succéder à une suite de lendemains. De pareil carton manuscrit, cette fois-ci en rose sur fond noir, scande La vie d'une femme de Charline Bourgeois-Taquet. Seulement ici, ce ne sont plus des dates mais de vrais titres de chapitres, hein, dans la lignée de la brèche ouverte par Joachim Trier il y a 5 ans. De vrais titres de chapitres numérotés de 1 à 10 et ainsi appelés l'abandon, encore ou bien la pitié, etc. Ces 3 films, donc soudain quelques jours à Nagui et la vie d'une femme, se rejoignent aussi en ce qu'ils constituent 3 portraits de femmes, selon l'expression médiatique consacrée, vraiment une formule un peu banale, qui sied néanmoins assez bien à la relative banalité de ces films, et je le dis comme un reproche autant que comme un constat. En effet, Gabrielle dans La vie d'une femme, Yukiko dans Quelques jours à Nagui et Marie-Lou dans Soudain sont des femmes qui font face à une charge mentale intense. Elles sont confrontées à une variété de problèmes et d'angoisses dans leurs univers professionnels et intimes. Chaque film s'emploie à les caractériser plus ou moins finement avant de proposer à leurs héroïnes une évasion loin de toute cette pression, en incarnant la possibilité de cette évasion, de cette échappée par un autre personnage. À chaque fois, il s'agit d'une autre femme avec laquelle la protagoniste noue une relation profonde, amoureuse ou bien amicale. Dans La vie d'une femme, Gabrielle trompe son mari avec Frida, une jeune écrivaine. À Nagui, Yukiko est restée très amie avec son ancienne belle-sœur Yuri, une sculptrice. Et enfin, à Paris, dans Soudain, Marie-Lou rencontre par hasard Marie, une metteuse en scène japonaise, qui va devenir en un rien de temps une personne capitale dans sa vie. Voilà, ces échappées-là, eh bien, elles sont en plus caractérisées par le fait que ces 3 femmes amies deviennent sont en plus des artistes encore dans cette compétition qui décidément n'en finit pas. de nous montrer des artistes. Bref, trois films, trois femmes, trois vies au programme du comptoir du jour. C'est parti. La vie d'une femme, Aubry, c'est le premier film qu'on a vu ensemble le 14 mai, il y a déjà une semaine, et ça paraît si loin, en Grand Théâtre Lumière. Cette femme, c'est donc Gabrielle, je l'ai dit, professeure en chirurgie maxillofaciale et directrice de ce service donc de chirurgie maxillofaciale dans un grand hôpital, et elle est débordée de toutes parts, elle est sous tension en permanence, elle tient à bout de bras son service, notamment aidée de son ami Camillard, alors que l'hôpital est en travaux de rénovation qui prennent un certain temps. Gabrielle, elle est mariée à Henri, dans un ménage heureux, où elle a néanmoins aussi à vivre avec les enfants adolescents, nés d'un premier mariage d'Henri. Gabrielle, elle a aussi une mère victime d'Alzheimer, dont elle va prendre la charge. Elle a aussi un neveu de qui elle est très proche et qui suit des études de médecine. Donc bref, tout un tas d'arcs narratifs. Et au milieu de ce contexte qui se dévoile progressivement dans le film, là je vous le résume, on ne l'a pas tout ça dès le début, eh bien surgit Frida, accueillie pour le coup dans la première scène du film, dans la salle d'opération par Gabrielle. Frida est une jeune romancière qui désire écrire un roman dont on ne saisit pas exactement le contenu, puisque dans ce roman elle voudra mettre d'autres trucs plus tard dans le film qui n'ont peut-être pas grand-chose à voir avec la chirurgie. Elle veut écrire un roman et elle va se rapprocher de Gabrielle jusqu'à tomber amoureuse d'elle et réciproquement. Et voilà bientôt donc une nouvelle charge pour l'esprit de la chirurgienne puisque les deux femmes nouent cette relation extra-conjugale. C'est Léa Drucker qui joue Gabrielle, de retour sur le tapis rouge de Cannes après avoir incarné la Stéphanie de Dossier 137 l'année dernière. On s'en souvient ici au comptoir. Mélanie Thierry joue quant à elle Frida et Charles Berling, Henri. Alors, dans la vie d'une femme, moi je trouve, mais peut-être c'est parce que c'est un réalisateur que j'aime beaucoup et auquel il ne faut bien sûr pas réduire le film, qui a ses propres qualités, mais on pense beaucoup à Claude Sautet dans ce film. D'ailleurs, Charles Berling, qui joue dans le dernier film de Sautet, Nelly et Monsieur Arnaud, est un signe, à mon sens, de cet héritage, de cette généalogie. On pense beaucoup à Sautet dans ce portrait de la bourgeoisie, dans son quotidien privé, comme dans son travail, quand Gabrielle aurait pu être incarnée à une époque par Romy Schneider. Seulement, là où Sautet exprime assez nettement qu'il est en train de parler de la bourgeoisie et qu'il y a un enjeu socio-économique derrière le film, ou derrière l'histoire du film, et que cette netteté lui permet de montrer les failles de cette classe sociale, que ce soit dans Une histoire simple, Les choses de la vie ou César et Rosalie, cela reste un peu un impensé dans ce film-ci, qui manque peut-être son coup sur un plan sociologique. La comparaison avec Sautet, je trouve qu'elle se tient à d'autres endroits que je révoquerai peut-être dans l'émission. Et avant de te laisser la parole, Aubry, sur la question de l'impensé, le simple fait que le film soit censé se dérouler à Paris, alors plusieurs indices explicitement indiquent qu'il est tourné à Lyon. Outre le logo Auvergne-Rhône-Alpes au début, on a le bus TCL qui passe derrière une conversation. Elle traverse la place Carnot, alors pas en plan large, donc on pourrait croire qu'elle traverse n'importe quelle place, mais... Moi j'ai l'œil. En passant donc par les fenêtres à loquet typiques de Lyon et par le panneau Pierre Bénite sur l'autoroute, sans oublier le décor qui est l'hôpital Édouard Herriot à Grange Blanche. Bon, ce simple fait de nous faire croire qu'on est à Paris malgré tout est assez étonnant et interroge quant au public visé par le film. Voilà, c'est pour ça que je parlais d'impensé. Mais assez parlé précisément, qu'est-ce que toi, Aubry, tu as pensé de cette vie d'une femme de Charline Bourgeois-Taquet?
Alors, moi j'ai plutôt bien aimé le film, même si en fait, à la fois j'ai plusieurs reproches assez importants à lui faire, et en même temps, j'avoue qu'en fait il m'est pas resté très longtemps en tête, on va pas se mentir. N'empêche que, on en a vu des films pas très bons dans cette compétition et même dans ce festival de Cannes, et disons qu'en fait le film de Charline Bourgeois-Taquet, il sort un peu de cette catégorie parce que il est vraiment pas mal, quoi. Plusieurs titres. Déjà, moi, je peux quand même saluer un vrai début de réconciliation avec Léa Drucker après, le drame Dossier 137 en début d'année. Je m'en suis toujours parmi. Même si j'avoue que, en contraste, je suis pour le coup moins fan du jeu de Charles Berling dans le film. Au rang des points positifs, on peut aussi compter une photographie vraiment très belle et pour le coup qui a son intérêt dans son utilisation de la lumière, mais dont en fait on finit par se demander si c'est pas un petit peu standardisé dans le sens où en fait ils ont utilisé un type de lumière pour le film, on va dire, et ils le changent pas en fonction de la scène, ce qui fait que la pellicule c'est très chouette et ça fait de très belles images, mais du coup la moitié des plans du film sont quand même méchamment surexposés. Donc voilà, après, dans ce que raconte le film, en fait, c'est moi, c'est là que ça m'intéresse le plus, parce qu'on va dire que je suis pas non plus très emporté par... Enfin, émotionnellement ou même transporté par le film. En revanche, je trouve que l'idée qu'il a de faire passer en fait tout ce qui est, enfin tout ce qui est dramatique dans la vie des personnages, l'idée que le film a de le faire passer par l'anecdote, par le chapitrage en 10 petites vignettes qui en fait sont assez détachées et assez anonymes. Enfin, elles sont pas anonymes vu qu'elles sont titrées, mais enfin je veux dire, elles sont pas non plus si particularisées que ça. Bah en fait, je trouve ça assez chouette parce que ça permet aussi de faire passer le côté exceptionnel du drame qu'on retrouve souvent dans des films comme ça. Ça le fait passer dans le quotidien, comme je l'ai dit, dans l'anecdote, dans quelque chose en fait d'assez banal. Et je trouve que c'est une opération à la fois plutôt juste et plutôt belle et plutôt bien menée par le film. Mais ça, on pourra y revenir.
Bah là, je te rejoins complètement pour le coup. C'est-à-dire que si c'est loin d'être le meilleur film qu'on ait vu dans cette compétition, et même si en réalité sa place en compétition peut être un petit peu surprenante, c'est clairement loin d'être le pire parce que bah, ce film... Il n'est pas porté par une espèce d'ambition prétentieuse qu'on pourrait reprocher ailleurs à d'autres. Voilà, Marie Kreutzer, si tu nous écoutes. Ça marche plutôt bien. Moi, je suis un peu... je suis assez intéressé par la façon dont le film, précisément, il fait le choix par les vignettes de l'ellipse, voilà, et d'éviter tout le drame. Voilà, de s'intéresser plutôt... à l'accidentel, aux contingences, aux conséquences des événements sans jamais donner dans un tire-larme qui pourrait presque être gênant. J'en parle typiquement, entre deux chapitres, deux mois peuvent s'écouler. Et ça, on l'apprend au détour d'une phrase par un des personnages qui continue leur vie, en fait, indépendamment du film. Et ça, c'est ce que je trouve assez réussi. Là où j'ai plus de soucis avec le film, c'est dans le personnage de Mélanie Thierry, qui, en fait, mine de rien, concentre plusieurs sous-intrigues dans les chapitres. C'est-à-dire que je trouve que les meilleurs chapitres sont ceux qui se tiennent indépendamment les uns des autres, ou bien alors ceux sur l'Alzheimer de la mère de Gabriel, on pourra y revenir. Mais l'arc narratif autour de Mélanie Thierry, je le trouve vraiment assez inintéressant. Je trouve que malheureusement, la performance d'actrice est pas terrible hein, de Mélanie Thierry, non pas tant à cause du jeu général de cette actrice qui fait ce qu'elle peut, mais plutôt à cause du scénario et du rôle qui lui est dévolu d'amante plus ou moins mystérieuse avec un sourire légèrement en coin. C'est-à-dire que la scène où elle lui confesse pour la première fois son amour, je la trouve un peu gênante,
très lourde aussi, on va pas se mentir. Enfin, c'est fait dans une forme d'abondance de symboles et de déréalisations. Enfin, c'est contraire à ce que fait le film ailleurs, en fait.
Oui, en fait, c'est ça. Je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que d'un coup, elles assistent à une espèce de spectacle mené dans les coulisses de l'Opéra de Paris par les danseurs et les danseuses de l'Opéra. Et, de l'Opéra Garnier, pardon. Donc dans cette espèce de déchaînement, de déferlement corporel, alors qu'on a vu au contraire une femme jusqu'à présent tout en retenue dans ses émotions, dans son érotisme absent en fait, etc. Là, d'un coup le film propose toute une décharge émotive et corporelle et physique, et donc dans ce cadre-là, sur un ton un peu mystérieux, Frida se confie. Donc là, je ne comprends pas, je n'aime pas. Et en fait, il se trouve que tout à l'heure, j'assistais à la masterclass donnée par Tilda Swinton, qui disait qu'elle n'aimait pas le mot de characters, donc de personnages, et que parce qu'elle trouvait que dedans il y avait quelque chose d'une fixité qui la gênait. Et après c'est toujours un peu ces éléments de langage d'acteur et d'actrice qui disent je joue pas un rôle, nanana. Mais elle disait quand même quelque chose d'intéressant sur le fait que voilà, elle ne voulait pas jouer de personnage. Et en fait, je trouve que Frida c'est la seule personne qui dans ce film fasse vraiment personnage. Créé pour les besoins de l'intrigue, qui n'évolue à aucun moment, qui réapparaît tout simplement pour faire évoluer en revanche tous ceux et celles qu'il y a autour d'elle, à savoir Gabriel, mais aussi son mari, et donc la relation conjugale de Gabriel et d'Henri. Et là, je trouve que c'est un petit peu un échec du film. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Aubry, de la construction du scénario et des personnages de la vie d'une femme.
En fait, je suis assez d'accord avec toi, et je vais reprendre ce que j'ai dit un petit peu tout à l'heure, c'est en gros, moi, ce qui m'intéresse dans le film, c'est la manière, effectivement, comme je disais, dont il va traiter ces questions de quotidien et tout, dont il va aborder aussi juste le travail à l'hôpital, en fait, quelque chose de très concret. Et, Et en fait, au fond, avoir une espèce de vision et d'approche aussi plus matérialiste. Le double, enfin, en fait, quand tu dis que la plupart des problèmes se canalisent en fait autour du personnage de Mélanie Thierry, je suis assez d'accord à plusieurs égards. À la fois parce qu'en fait, c'est un personnage qui incarne une espèce de tentation esthétisante et bourgeoise dans la représentation. C'est-à-dire que, on l'a dit, c'est un personnage d'artiste. Un peu bohème en même temps, qui est jamais trop là, dont on connaît jamais le quotidien, en fait, qui est très évanescent, qui en gros apparaît avec pour seule fonction et seule caractérisation d'être un love and sex interest, quoi. Ce qui du coup est en soi un peu gênant. Et à ça, en fait, on peut rajouter quelque chose qui court aussi sur d'autres films du festival, mais on pourra peut-être y revenir. Qui est que du coup, en fait, là, la romance lesbienne est un peu un prétexte utilisé par le récit et par les personnages pour, en gros, s'échapper de leur quotidien, trouver une forme de distraction ou quoi, et surtout, elle revêt un caractère un peu, comme tu l'as dit, mystique et extraordinaire, comme si, en fait, justement, elle n'était pas conciliable avec ce quotidien matérialiste et tout. Et ça, j'avoue que ça me pose quand même un peu problème. C'est le cas dans d'autres films, hein, mais comme si, en gros, effectivement... la relation, en l'occurrence lesbienne, mais même plus largement, je sais pas, homosexuelle ou queer, enfin, ne pouvait advenir que sous une forme un peu extraordinaire, ne pouvait advenir que pour sortir d'un quotidien quoi, et en fait ne pouvait pas advenir dans un cadre normal, banal ou quoi. Donc voilà, j'ai un petit peu un problème avec ça aussi. Et ouais, pour ça, en fait, je trouve que c'est ce qui fait tâche dans le récit. Ça crée des sorties de route un peu étranges jusqu'à la toute dernière séquence du film, qui pour le coup, enfin pour moi, est vraiment complètement ratée et complètement hors de propos. Mais enfin ça, on évitera de la spoiler, mais voilà.
Là où je te rejoins aussi, c'est que en fait, cette relation amoureuse là, elle est donnée absolument comme contingente, et ça devient et même clairement donné comme telle quand elle prend et c'était clairement donné comme telle dans la scène qui se passe à la montagne, où en gros pour la première fois donc Gabriel rejoint Frida sur le mode de l'amitié, en tout cas c'est comme ça que Gabriel se le dit lorsqu'elle va dans ce chalet isolé au milieu de nulle part, etc. Et puis bon, c'est là qu'elles vont coucher ensemble pour la première fois. Et bien, il y a là, dans cette montagne, une façon de la filmer, de faire scintiller quasiment le lac, la montagne, d'un coup.
Enfin, là, il y a une séquence en fait où le plan est envahi de brume, et j'ai pas envie de dire qu'on a l'impression d'être à Silent Hill, mais enfin, en tout cas, le plan donne une impression très fantastique.
Oui, voilà, il y a quelque chose d'assez merveilleux qui se répercute ailleurs sur la pellicule. Tu disais qu'on change pas d'éclairage et tout. Il y a dans cette scène qu'on le change, et même la première scène de sexe est filmée, voilà, dans une espèce de lumière quasi à la bougie, de façon, oui, on entre quasiment dans le merveilleux, donc dans l'irréel. Donc on quitte l'espèce de naturalisme qu'on avait dans toute la première moitié. On va plus vers oui, vers la scène de sexe de Je tue l'aile de Chantal Akerman, où vraiment on a donc ces deux femmes qui font l'amour de façon très sculpturale quasiment. Et donc, mais là, ça détonne, je trouve, beaucoup trop. Et c'est une rupture de ton étonnante. Maintenant, la mise en scène ailleurs est plutôt assez réussie. Je trouvais avoir été plutôt convaincu sur les plans qu'on a l'impression d'avoir déjà vus et qui en même temps ne donnent pas le sentiment d'être cliché, de juste de plans séquences dans un hôpital en tension. Et ben là, ça arrive assez bien à restituer, comment dirais-je, l'épuisement du personnage, l'épuisement de sa vie quotidienne. Parce que le point, par exemple, ne se fait pas immédiatement. Donc on a quelques moments où en fait juste l'image reste un petit peu floue le temps qu'on refasse Léa Drucker qui s'est déplacée soit de nouveau nette. Voilà, ça c'est assez fort. Je trouve qu'on entre assez vivement dans le film par une scène d'opération qui est pas mal filmée non plus. Donc la mise en scène rend assez bien compte, je trouve, mieux, beaucoup mieux que le scénario, comme on vient de le dire, de voilà, l'épuisement de la société dont le film rend assez, assez justement compte. C'est ça aussi, moi, qui me faisait penser à Claude Sautet, qui, voilà, je trouve, surtout toute son œuvre chronique de plus en plus la façon dont le libéralisme, le capitalisme mettent à bout, en fait, tout simplement, les hommes, les femmes, et puis leurs sentiments. C'est-à-dire qu'on passe de quelque chose d'assez puissant en termes d'émotions et les choses de la vie à toute fin Nelly et Monsieur Arnaud, où tout est affaire de calcul et de rationalité, où il n'y a plus une grande place laissée à l'affect. Bon, bah là, on a un petit peu quand même cette question-là de mécanismes économiques qui prennent le pas, de fatigue. Et je trouve que le mot d'épuisement marque assez bien un mouvement généralisé de fatigue. On n'est pas juste sur un burn-out, on est sur... c'est tout le monde autour de Léa Drucker qui semble tout à fait à bout, que ce soit sa mère donc, qui a Alzheimer, on pourra revenir sur cette question-là aussi, que ce soit donc son collègue qui décide de passer dans le privé et d'ouvrir un cabinet dans le 16e, etc., etc. Et je trouve effectivement que c'est assez subtilement représenté, surtout au début du film, sa fin étant, je te le concède Aubry, une espèce de surgissement mélodramatique malvenu.
Sur la mise en scène, qui effectivement, j'y reviens, a une forme d'approche assez matérialiste, vraiment concentrée sur le concret de l'activité de ses personnages, le concret du quotidien en fait, et qui va chercher... un temps aussi du banal qui soit un peu long ou qui soit dans le rush par exemple du travail. Et en fait la mise en scène elle va s'intéresser à toute une série de petits gestes, toute une série d'habitudes et toute une série de dérèglements qui interviennent dans ces gestes et habitudes. Et ça c'est vraiment plutôt bien fait. Ce qui fait qu'en fait même si on suit malgré tout un personnage qui est tout sauf prolo, en fait on arrive quand même à avoir cette espèce de souci à même les choses très concret et qui fait plaisir. Le scénario à cet endroit là il suit en partie dans le sens, il pêche par tout ce qu'on a dit, mais il suit par ce chapitrage et ce choix en fait d'évacuer tout le dramatique dans les interstices que constituent les cartons. C'est-à-dire que, en fait, quand des changements se passent à l'hôpital, que je sais pas, que quelqu'un se fait virer, ou alors que quelqu'un dans l'entourage d'un personnage meurt, ou à qui il arrive quelque chose de dramatique, tout ça, en fait, se passe systématiquement hors film, en fait, dans l'interstice de ces cartons. Et c'est assez génial parce que, du coup, ça s'accorde avec la mise en scène, dans le sens où ça suit cette idée de montrer le quotidien, ces gestes-là, leur dérèglement. Et en fait, du coup, c'est là-dedans qu'on va voir le dramatique se dessiner, non pas par des moments forts, comme on en aurait l'habitude, mais au contraire par en fait toutes ces conséquences sur ces gestes-là. En revanche, à cet endroit-là, je trouve que le film il a quand même un peu le cul entre deux chaises, entre ce que tu mentionnais de Claude Sautet, qui est vraiment un truc du quotidien intime presque, affectif, etc., pris par les sentiments et la manière d'être, et un quotidien vraiment lié au travail et à l'exercice et au rythme très aliénant du travail qu'on pourrait retrouver en début d'année chez Laura Vandel dans L'intérêt d'Adam, merci, déjà avec Léa Drucker d'ailleurs. Disons qu'en gros, dans les séquences à l'hôpital, on a un peu l'impression de retrouver l'intérêt d'Adam, et dans le reste, on a un peu l'impression d'être chez Claude Sautet, et je trouve que le film a du mal à vraiment concilier les deux, dans le sens où il a justement ces espèces d'hésitations, de contradictions, où en fait, à un moment, il va avoir, à certains moments, il va avoir des séquences, des approches effectivement très concrètes, de se poser des questions de comment vivent les personnages, avec quels gestes, quelles habitudes et quelles actions, dans les détails, et qu'en fait, à d'autres moments, il va juste se laisser aller à la rêverie abstraite et plutôt cliché en fait. Donc voilà, ça je trouve c'est un peu décevant, et disons que voilà, j'apporterai ça quand même pour nuancer l'affiliation avec Claude Sautet, même si je te rejoins quand même en partie.
Et on passe à présent à quelques jours à Nagui, qu'on a vu pareil la semaine dernière dans la foulée de La vie d'une femme, dans le Grand Théâtre Lumière du Palais des Festivals à Cannes. Ce film de Koji Fukada est également une entrée en compétition pour le réalisateur, tout comme c'est le cas pour Charline Bourgeois-Taquet. Simplement, là où le japonais a déjà une dizaine de films à son actif, la française n'en est qu'à son deuxième. Bref, c'est quelques jours à Nagui. On est invité à les passer en compagnie de Yukiko, une architecte de Tokyo venue se reposer chez Yuri, la sœur de son ex-mari, qui est sculptrice et avec qui elle a gardé d'excellents rapports. La venue de cette citadine dans un monde rural et paisible provoque bientôt de nombreuses réactions, et le petit monde des amis et voisins de Yuri se trouve bientôt tout troublé. Un veuf, par exemple, développe des sentiments pour Yukiko, deux jeunes garçons croient pouvoir trouver en elle leur confidente, et Yuri elle-même espère pouvoir sculpter un buste de Yukiko pendant ce séjour. Ce personnage, au sentiment duquel on n'a accès que tardivement et brièvement, sert donc d'écran de projection aux fantasmes des uns et des autres, qui y projettent tour à tour l'image d'une amante décédée, l'icône d'un mannequin dessiné sur le mur, ou encore une figure urbaine, donc peut-être plus progressiste. Tous ces espoirs seront néanmoins déçus, chacun à leur façon. Et puis déçus, on l'a été un petit peu nous-mêmes, Aubry, par ces quelques jours à Nagui.
Complètement déçu, parce que même si le film a certains intérêts, certaines fulgurances dans sa mise en scène, des séquences qui restent un petit peu, globalement on s'emmerde quand même pas mal. Je trouve que le film tient pas du tout son scénario, tient pas du tout son rythme, surtout c'est interminable alors que ça fait moins de 2 heures. Et pourtant Dieu sait qu'il y avait des films longs dans cette compétition qui sont passés beaucoup plus vite. Après moi je peux comprendre, hein, ça peut être aussi une volonté de Fukada de faire passer cette lenteur, etc. Là j'ai pas l'impression non plus que ce soit complètement l'enjeu. Très honnêtement je trouve juste que le film se perd là-dedans, en fait à vouloir... Installer une forme de banalité, de quotidien qui serait le lieu en fait de discussion et de mise à nu progressive pour les personnages et qui en fait devient au contraire vite le lieu de discussions creuses, pas très bien écrites et pas très intéressantes, on va pas se mentir. Donc voilà, je suis très mitigé sur le film, voire assez déçu, d'autant plus que le casting est pas spécifiquement à la hauteur, ou alors dans ce cas-là l'erreur est plutôt dans la direction d'actrice de Fukada, donc voilà.
Bonsoir. Super, merci.
On va reprendre dans la break area.
On reprend après une brève interruption de l'enregistrement qui normalement ne devrait pas être sensible au montage, sinon c'est que je l'ai raté, pour donc Nagi Notes, mais on a été chassé de la terrasse des journalistes qui a tout simplement fermé, normal, à 21h. Mais bref, Aubry, donc je rebondis sur ce que tu dis, et effectivement, c'est un film, un des principaux reproches qu'on peut lui faire, c'est qu'il parle beaucoup, et peut-être même beaucoup trop. Il passe son temps à expliquer en continu ce qu'il fait, ce que les personnages font, et les personnages répètent, redoublent leurs actions de mots tout à fait inutiles. Et effectivement, pendant la séance, je ne comprenais pas vraiment ce qui m'empêchait d'apprécier le film, puisque a priori, il a tout pour me plaire. Du côté contemplatif l'évocation sensible de sentiments refoulés. Voilà, en plus, ce cadre japonais rural, moi j'avais envie de lui accorder ma sympathie. Et un des problèmes que j'ai avec le film, c'est que il a un peu déjà été fait, et beaucoup mieux, il y a 3 ans, par Koreeda Hirokazu, qui est aussi en compétition cette année, avec un film très différent. Mais dans Nagi Notes, il y a 2 jeunes garçons dont on comprend qu'ils ont l'un pour l'autre des sentiments amoureux. Ils ont quoi, 14 ans, 13-14 ans par là. L'innocence réalisée par Koreeda est sortie en 2023 et présentée à Cannes en 2023. Sur un sujet similaire, il était beaucoup plus fort. Il était beaucoup plus fort, notamment parce qu'il s'éloignait quasiment jamais de ses personnages enfantins, et que son scénario, tout en réussissant à être une brillante variation de perspective, ne les quittait jamais vraiment. Koreeda, il ne représente pas un mystère de l'enfance, il ne romantise pas dessus non plus, mais il laissait des parts inexpliquées. L'effet Rashomon de triple perspective nous permettait à nous de comprendre les faits à côté desquels certains personnages passaient. On était laissé seul pour faire les liens, pour nouer les liens qui restaient manquants dans les histoires et exhumer en fait les relations que le film ne nous montrait pas quand même. Et puis on se trouvait bien bouleversé, bien ravagé à la fin. Mais bon, là effectivement, tu l'as dit Aubry, le problème de Nagi Notes, c'est qu'il pêche par son scénario. On pourra reparler de la mise en scène après. Franchement, le chapitrage en journée ici, il est très artificiel, alors que, comme tu le disais, ce qui se passait dans le hors-champ, les événements très dramatiques dans le hors-champ de la vie d'une femme, dans les cartons de la vie d'une femme, ça avait une certaine puissance, puisque ça nous permettait de nous intéresser aux affects, aux émotions des personnages, et en gros aux conséquences plus tardives d'événements surgis quelques mois plus tôt parfois. Le chapitrage en journée consécutive, eh bien, rend le truc bien, bien indigent. Tout est expliqué de bout en bout et tout trouve sa résolution. Rien n'est laissé donc dans ce fameux hors-champ, rien n'est accidentel et tout semble suivre une feuille de route précisément écrite et qui ne fait absolument pas confiance au spectateur ou à la spectatrice, qui a besoin de le guider, de clôturer son imagination. Ce qui, quand même, pour un film qui passe son temps à parler d'art et de la sculpture, etc., manque de liberté, tout simplement. Tout se passe plutôt comme si Fukada adoptait l'approche ultra figurative et fondée sur la représentation de modèle de Yukiko, la sculptrice.
Oui, je suis assez d'accord avec pas mal de trucs que tu as dit. N'empêche que pour moi, le scénario pêche à d'autres endroits. C'est-à-dire que le chapitrage, c'est pas forcément un mal, je trouve. C'est même plutôt en soi pas une mauvaise idée de la part de Koji Fukada. Le problème vient ailleurs. En fait, c'est un problème de cohérence. C'est-à-dire que, mettons, ce chapitrage au jour le jour, en fait, avec les calendriers, enfin quasiment au jour le jour, ça crée pour le coup une espèce de fluidité en termes de rythme et de passage du temps qui est propre à un certain quotidien. Et pour le coup, là, ça vient noyer les événements et la souffrance de certains personnages dans cette espèce de quotidien de temps de pause. Hein. Vraiment, le film se pense comme ça, comme un temps de pause, de vacances, littéralement, de vide. C'est-à-dire que, les personnages des deux jeunes garçons, eux, sont à l'école, mais on les y voit pas si souvent que ça. Et typiquement, le personnage de Yuriko est en pause, quoi. Enfin, vient se réfugier chez sa belle-sœur. Donc voilà, le film pose, on va dire, ce rythme-là. Le problème, c'est que de l'autre côté, il voudrait parler de plein de personnages, de plein de sujets et de plein de problèmes qui les traversent. On a mentionné, la relation entre les deux jeunes garçons, pour reprendre le parallèle avec l'innocence. Le truc, c'est que l'innocence, lui, il en faisait pleinement son sujet. Alors avec des artifices de scénario qu'on peut aimer ou critiquer, mais il assumait d'en faire pleinement son sujet. Là, Koji Fukada, c'est même plus qu'il a le cul entre deux chaises, c'est qu'en fait il fait une chose et son contraire. C'est-à-dire que à la fois il voudrait en fait nous saisir par un drame presque sensationnaliste par moment au niveau de sa mise en scène et de ses effets, alors qu'en fait les événements concernés par ce drame restent systématiquement en périphérie de ce que nous montre Fukada, et du coup tout s'annule, tout reste plutôt plat, rien ne prend de relief, alors qu'on sent bien en fait que au scénario ou même dans certaines idées de mise en scène, les événements en question devraient avoir ce relief là qu'ils n'ont pas. Du coup là le film en fait se casse un peu la gueule dans ce paradoxe là, parce que justement comme tu l'as très bien dit, en fait il sort jamais de ses gonds, de sa feuille de route qui est très dessinée, bien pensée, etc. Mais du coup ça fait un film sans vraiment de surprise. Sans vraiment non plus de moments de chaos, alors que c'est précisément de cela dont il est question quand même à certains moments de l'intrigue. Du coup ça souffre en fait de la comparaison avec La vie d'une femme, qui lui pour le coup, avec toutes les imperfections qu'on a mentionnées plus tôt, arrivait quand même mieux en tout cas à jouer sur ces deux tableaux là.
Je te rejoins absolument, moi je trouve que le film manque pas mal de choses et assez typiquement, dans les sujets qu'il veut aborder, il y a la présence en périphérie du village d'un camp militaire, d'un camp d'entraînement des forces d'autodéfense, donc que le Japon n'est pas censé avoir d'armée, et dont on entend de temps en temps les tirs à balles réelles qui sont annoncés par la radio et qui forment une espèce de présence très inquiétante, très mystérieuse et assez subtile au fond, des tensions qu'on sent en fait entre les personnages derrière leur sourire et leur politesse, etc. On sent que il y a des choses qui ne se disent pas, typiquement entre le veuf et Yukiko, ou même entre Yuri et Yukiko. Il y a des non-dits qui seront tous intégralement expliqués, révélés de bout en bout, et même cet arrière-plan angoissant qu'on avait dans Le Mal n'existe pas de Ryusuke Hamaguchi, par exemple. Je suis navré pour ce name dropping en fait que je fais là, surtout sur ce film-ci, mais le problème c'est que tout a déjà été fait en mieux et ailleurs, et ce qui montre que là ça s'inscrit quand même dans pas mal de clichés, le film de Fukada. Bref, dans Le Mal n'existe pas, qui est un film avec lequel j'avais des problèmes, mais une des choses intéressantes c'était les coups de feu des chasseurs qu'on entendait parce que c'était la saison de la chasse dans la forêt, dans ce petit coin rural et enneigé du Japon. eh bien, on les voyait jamais, ces chasseurs, mais voilà, ça créait un malaise profond et d'autant plus violent dans ce qui se passe à la fin du Mal n'existe pas. Là, rien de cette violence, rien de cette cruauté. On pourrait croire que c'est une espèce de légère critique de la militarisation, du réarmement du Japon qui revient de plus en plus sur l'article de renonciation à la guerre dans sa constitution. Hein. Enfin, je veux dire, il est quand même sous les attaques diverses de la première ministre Takaichi. Là, même ce passage-là, c'est ça que je trouve assez symptomatique des problèmes du film, trouve une résolution, puisque eh bien, le père d'un des deux jeunes garçons, donc homosexuel, est soldat là-bas. C'est à ce titre qu'il a déménagé donc, dans cette campagne au milieu de nulle part qu'est Nagi. Et on ne le voit pas. Donc pareil, on a cette idée d'une absence et qui en même temps renforce la présence assez pesante de l'armée ou du père. On ne le voit pas. Et soudainement, à la fin, eh ben, il fait son irruption. Non pas tant d'ailleurs pour briser quoi que ce soit dans les relations très gentilles, très apaisées, très calmes du film, mais plutôt pour eh bien, lui-même s'excuser d'avoir été un mauvais père, de ne pas être assez présent, etc. etc. Et donc, finalement, tout est bien qui finit bien. Il y a une espèce de mièvrerie qui est très pénible dans cette fin heureuse. Je pense que la bienveillance affiché de certains films du festival et les trois films dont on parle dans cet épisode en souffrent un petit peu chacun à leur façon, mais là elle atteint son paroxysme dans Nagi Notes, enfin ou dans quelques jours à Nagi, et c'est ce qui fait voilà la faiblesse à mon sens des films présentés au début de la compétition et qui ensuite va s'est trouvé un petit peu contrebalancé par des films plus violents, peut-être moins appréciable, moins aimable que ceux-là qui se donnent comme des produits parfaitement prêts à consommer, prêts à être acceptés dans une empathie un peu gnangnan et un petit peu pénible. Voilà. Et quant à la mise en scène qu'on évoquait tout à l'heure, bah, je la trouve vraiment pas si intéressante que ça. Et pour balancer encore un name dropping, encore un nom, je trouve que Naomi Kawase filmerait ça de façon beaucoup plus intéressante. Je pense à son premier film, Moe no Suzaku, qui traite de questions du deuil et du retour et d'être coincé dans cette ruralité dont on ne peut pas s'extraire, qui a des plans mais bouleversants à l'intérieur et qui surtout est très taiseux. Sans que ce soit chiant pour autant. Là, ça parle et c'est chiant. Et vraiment, de façon assez caricaturale, la mise en scène de quelques jours à Nagi, elle se résume à quoi ? Eh ben, un travelling ou un zoom avant. Enfin, tu me contrediras, Aubry, hein, mais vers les acteurs et les actrices. Voilà, comme pour intensifier et vraiment guider la personne qui regarde pour lui dire là il y a une émotion, là il y a quelque chose qui se joue. Je me souviens d'une scène dans l'atelier entre Yuri et Yukiko où Yuri raconte en gros la première fois qu'elle est tombée amoureuse d'une fille, etc., dont on comprend qu'en fait elle la retrouve en partie dans Yukiko. Et là, eh bien, oui, le travelling avant se fait histoire vers les deux visages, mais les deux visages sont de profil, il n'y a pas de champ contre champ, il n'y a rien qui ne permettrait de renforcer l'intensité émotionnelle. Et voilà, et typiquement la direction d'acteur, en fait, elle n'est pas non plus à la hauteur du tout, à mon sens. Moi, j'étais très gêné par moment, puisqu'on a juste l'impression que globalement, l'acteur ou l'actrice, elle attend ou il attend le top du réalisateur dans le hors-champ pour partir ou pour entrer dans le champ. Les entrées ne sont absolument pas naturelles ou normales. Pour un film qui pourtant traite du quotidien et de relations habituelles, on n'y est pas. Soudain le fait par exemple un petit peu mieux. Donc vraiment, au fur et à mesure du film, je me suis profondément ennuyé et vraiment je pense que c'est peut-être le film le plus mauvais de cette compétition, en tout cas peut-être pas de tout le festival, mais de ce qu'on a vu, c'est un des films les plus mauvais en tout cas de la compétition.
C'est un des moins bons, parce que le plus mauvais, on en a quand même parlé avec Claire, on ne retapera pas sur l'ambulance.
C'est vrai que je ne l'ai pas vu, pardon.
On parle de L'être aimé de Rodrigo Sorogoyen. Pour rebondir sur ce que tu dis, parce que je suis vraiment pas d'accord avec tout, je trouve que la mise en scène n'est pas si pauvre que ça. Alors effectivement, ce travelling / zoom avant qui revient avec récurrence est assez insupportable, parce qu'en fait, il n'a ni vraiment d'utilité ou d'intérêt, je trouve. Et pour le coup, il prend beaucoup de place, hein, vraiment, on le voit très fort. En revanche, je trouve que en termes de mise en scène, il y a pas mal de bonnes idées, alors qu'elles aboutissent pas tout le temps, mais pas mal de bonnes idées quand même. Il y a tout un jeu qui est fait, certes de façon incomplète, mais qui est fait quand même, qui est au moins initié autour des statues de l'atelier du riz, où pour le coup, il y a une forme de présence, et là, il y a tout un lien avec le deuil, l'absence, la solitude de son quotidien aussi. Et en fait, quand Fukada filme ces visages-là, il y a toute une bizarrerie qui se crée, parce que, alors, on l'a dit, ces statues sont moches, vraiment, elles sont... ça se passe pas très bien, quoi. Mais du coup, il en résulte une forme de bizarrerie, parce que c'est des visages qui sont à la fois un brin reconnaissable et en même temps un peu déformé. Donc, d'aucuns diraient inquiétante étrangeté. Et ça, pour le coup, ça a créé quelque chose d'intéressant, ça a créé une forme de rupture et de décalage à cet endroit-là, dans la banalité et la platitude de ce qui est montré et de la manière dont c'est montré. Donc là, ça marche, je trouve. Après, est-ce que justement le récit et Fukada, à plus large échelle, au niveau du film, en font quelque chose? J'en suis beaucoup moins sûr. Mais au moins, il y a ces points d'ouverture-ci. Deuxième élément qui m'a bien satisfait dans la mise en scène, c'est qu'en fait, on a pas mal pour le coup, et là, à l'inverse, je trouve qu'elle fonctionne bien, de scènes un peu plus déréalisées, un brin plus onirique, et qui en tout cas fonctionne mieux que dans la vie d'une femme. C'est en gros des séquences, souvent d'ailleurs, qui passent au ralenti, un petit peu, où le cadre s'élargit, qui ont un côté très esthétisant. Je pense notamment à deux séquences en particulier. Il y a la séquence de l'incendie et que je retrouve dans mes notes, voilà, celle du fantôme. Alors celle du fantôme, elle se déroule beaucoup moins sur la question du paysage et du plan large, ça c'est surtout celle de l'incendie. Mais en fait, c'est deux séquences où la mise en scène vraiment troue en gros tout ce qui faisait le côté carré de son dispositif et de ce qu'elle mettait en place et de ce qu'elle racontait. Là, je trouve qu'on a des vrais échappatoires, des vrais décalages. La séquence avec le fantôme est très très forte. Pour le coup, moi je trouve qu'elle n'est pas si attendue que ça. Je trouve que la manière dont est géré le côté apparition-disparition est plutôt, c'est plutôt bien foutu. Et je trouve surtout que c'est en fait vraiment très, très justement visé de la part de Fukada d'attribuer à ce fantôme-là une tâche et un rôle infiniment banal et surtout sans trop de conséquences derrière. Donc voilà. À l'inverse, la scène de l'incendie, elle prend un rôle beaucoup plus. Enfin, c'est vraiment une scène d'abstraction qui vient pendant le temps d'un plan ou deux, logée au sein de cette matière en gros qui est elle-même très abstraite, parce que le feu. C'est par essence quelque chose d'abstrait et en fait il vient loger toute une série d'affects qu'il a emmagasiné à force de discours jusque là et là du coup le film en fait respire d'un coup et je trouve ça assez juste, assez beau en fait, tout simplement, et ça fonctionne. Donc voilà, moi je serais quand même moins critique en termes de mise en scène. C'est juste que en fait le problème se retrouve plutôt à l'échelle du film lui-même, où le tout, je trouve, ne se tient pas et surtout, en fait, raconte pas tant de choses que ça.
Et c'est tout pour Quelques jours à Nagui de Koji Fukada. On se retrouve dans un troisième cadre juste après la virgule, au studio de Transistor avec Claire à Lyon. Et d'ici là, on aura quitté Cannes et on vous parlera du Ryosuke Hamaguchi. Et ça tourne au son. Par la magie du montage, cet épisode reprend fluidement, alors même que plusieurs semaines se sont passées depuis la première partie de l'enregistrement sur La vie d'une femme et Quelques jours à Nagui, et qu'Aubry, Claire et moi-même nous trouvons à présent à Lyon, au studio de Transistor, où nous sommes réunis pour discuter du troisième film de cette programmation, qui était aussi l'un des plus attendus de cette édition du festival, Soudain. Un film du japonais Ryusuke Hamaguchi, déjà récompensé à Cannes du prix du scénario il y a 5 ans, déjà, par le jury de Spike Lee pour Drive My Car, et entre-temps vainqueur du Lion d'Argent pour Le Mal n'existe pas, en 2023. Le revoici donc avec un film tourné en grande partie en France, en immense partie en France, mais il y a quelques scènes au Japon, avec pour tête d'affiche un duo qui a remporté, conformément à mes prédictions du palmarès, bref, le prix d'interprétation féminine le 23 mai dernier, les actrices donc Virginie Efira et Tao Okamoto. La première, Virginie Efira, incarne Marie-Lou, directrice d'un EHPAD privé dans Paris, où elle s'efforce de mettre en place un système de care très progressif et très adapté aux patients et patientes âgés, et dans leur immense majorité séniles. Système auquel Marie-Lou veut former au pas de course l'ensemble des infirmiers et infirmières de l'établissement, qui a pour joli nom, l'Humanitude, ce nom est atroce, simplement certaines réticences se font sentir dans l'équipe, notamment portées par Sophie, la doyenne des infirmières, qui y voit une perte de temps et d'argent, voire un danger pour les résidents et résidentes, qui risquent en fait de tomber et de se blesser plus souvent, l'Humanitude reposant en partie sur la station debout des vieux. Des pressions du conseil d'administration du groupe qui détient cet EHPAD s'ajoutent aussi sur les épaules de Marie-Lou, chez qui son directeur adjoint, incarné par le toujours sympathique Jean-Charles Clichet, repère tous les signes du burn-out. Et puis, un beau jour, Marie-Lou fait la connaissance de Marie, une dramaturge japonaise en résidence dans un théâtre à Paris, où elle crée et met en scène une pièce sur l'interdiction des hôpitaux psychiatriques en Italie, et donc sur Franco Basaglia qui est à l'origine de cette initiative. Le spectacle est un seul en scène porté par un vieil acteur japonais venu en France accompagné de son petit-fils, lequel est touché par une forme sévère, voire très sévère, d'autisme. Après le spectacle, Marie-Lou et Marie passent la nuit à discuter, à faire connaissance, à se lier d'une amitié très forte, d'autant plus forte qu'elle est pressée par la mort annoncée de Marie, atteinte d'un cancer incurable qui peut se déclencher soudainement, d'où le titre du film qui dure quand même 3h20. Cette durée conséquente a pour mérite d'installer le quotidien de Marie-Lou, c'est le thème de cette émission, de laisser le temps aux conversations les plus banales de se déployer dans le style et le système propres à Hamaguchi et de nous permettre de croire franchement à la belle relation entre ces deux femmes dont on appréciera qu'elles parlent de capitalisme, de théâtre, de soins, mais jamais d'amour ni de mec, un effort qui est pour le moins, eh bien, moins fait dans la vie d'une femme et dans quelques jours à Nagui. Ce film a globalement rencontré un certain succès auprès de la critique présente à Cannes, c'était attendu. Mais le comptoir du festival sait aussi se trouver là où on ne l'attend pas. Claire, qu'est-ce que tu en as pensé de ce Soudain en ce 7 juin et qu'est-ce que tu dirais que tu en as gardé quoi, de deux semaines et demie après?
J'en ai gardé en vrai beaucoup, pas mal de choses. En fait, je sais pas, c'est très bizarre ce film parce que les 3 heures passent très bien. Enfin, oh non, je mens un peu. J'ai eu un petit souci au milieu. Ou vraiment, enfin en fait, je sais pas comment expliquer, juste d'un coup, Virginie Efira fait un exposé sur le capitalisme et ça dure très longtemps. Mais quand je vous dis très longtemps, c'est que c'est vraiment très très long, il y a des schémas, etc. Ouais, une bonne grosse demi-heure. Mais c'est vraiment, enfin en fait, vous savez, les dialogues qui sont pas vraiment des dialogues, mais on fait en sorte que c'est des dialogues pour que ça reste dynamique, mais c'est pas vraiment dynamique quand même, bah voilà. Donc, si on oublie ça, autrement, c'est super. En fait, ce que je retiens, c'est vraiment les acteurs qui sont trop chouettes. Je suis trop contente que les deux l'aient eu. Virginie Efira, moi, je l'ai préférée dans Histoire parallèle. Je trouvais qu'elle avait plus de strates de jeu. Mais là, elle était quand même très chouette. Mais surtout, l'autre, Tao Okamoto, voilà. Était vraiment formidable. Elle jouait une metteuse en scène qui était vraiment la metteuse en scène parfaite, sans exagération, dans son corps tu sentais qu'il y avait voilà toutes ces années de travail de théâtre, surtout que c'est du théâtre une version assez particulière du théâtre un peu très japonisante, très sur l'expression, enfin ça, c'est un peu cliché ce que je veux dire, mais un peu sur l'expression corporelle, etc. Et en fait, c'est tout ça qu'elle va injecter dans l'EHPAD de Marie-Lou. Et en fait, c'est ça qui est hyper touchant. En fait, c'est vraiment ce côté, une espèce de petite parenthèse hyper sensible, très, très humaine, et que le film écrit très bien, je trouve. Enfin, retranscrit très bien. Après, ça va aussi avec ses défauts, dans le sens où c'est très idéaliste. Et en fait, le film a du mal à se cantonner à l'EHPAD, c'est-à-dire qu'il en sort à plusieurs reprises, alors même qu'il en sort jamais dans le point de vue du propos. Et ça m'a un peu étonnée. Enfin, en fait, ça aurait été horrible si ça avait été filmé que à l'intérieur de l'EHPAD, mais enfin, je sais pas. Il y a un peu un truc, voilà. Disons que j'ai préféré Drive My Car, mais le film vaut vraiment le détour et les 3 heures sont pas un frein. Enfin, voilà, c'est pas censé être. Enfin, c'est pas un problème.
Moi je suis très frustré par le film et en même temps il m'a complètement conquis et pour le coup moi j'ai trouvé que les 3h15 passaient vraiment excellemment bien, enfin c'est super fluide, c'est impressionnant et Dieu sait qu'il y avait des films beaucoup moins longs en compétition qui sont passés beaucoup plus longuement ou d'autres, mais va pas taper toujours sur les mêmes et en fait je suis assez d'accord avec la plupart des choses que vous avez dit. Le duo d'actrices et même le cast dans son ensemble est vraiment fou. La mise en scène, en vrai, assez discrètement, fait des espèces de giga dingueries. Enfin, je veux dire, le plan séquence qui les suit traverser tout le 13e et le 14e au début du film, où tu peux checker un par un les endroits de la BNF au parc de Bercy, ou je sais plus, non, c'est juste les quais. Disons qu'en fait, je trouve que le gros problème que j'ai avec le film, c'est que je trouve qu'il dit quelque chose et sa mise en scène dit le contraire. J'ai un problème politique avec le film, c'est-à-dire que, comme tu as dit, Claire, c'est très idéaliste. Enfin, pour le coup, moi, je dirais même juste l'EHPAD que met en scène le film est clairement juste un lieu utopique, mais Louis dirait peut-être autre chose après. Et en fait, le problème que j'ai avec ça, c'est que le film ne réfléchit que à partir de son utopie. Il réfléchit quasiment jamais à partir de choses très concrètes, ou en tout cas, les choses concrètes qu'il met en place sont des trucs de cette utopie, enfin font partie de cette utopie et donc sont déconnectés de tout le monde qui les entoure. Et du coup, ça fait vraiment, comme tu l'as dit, de l'idéalisme, dans le sens c'est de la réflexion conceptuelle déguisée en trucs concrets. Je trouve que ça c'est assez lâche surtout par rapport en fait aux grandes leçons que nous fait le film sur le capitalisme sur les quelques trucs qu'il nous dit, même juste sur le monde, enfin ce coin-là du monde de la santé. Et je trouve que c'est con parce qu'en fait sa mise en scène dit le contraire par moment, c'est-à-dire qu'en fait cette manière que Hamaguchi il a d'imposer un temps aberrant à l'écran, c'est-à-dire de faire un plan séquence de 20 minutes qui est juste consacré à une scène de discussion où les personnages se découvrent et se posent des questions qui vont de comment tu vas, tu viens d'où, tu es qui, à et si je t'expliquais ma thèse sur Marcel Mauss. Et pareil pour, en fait, pour cet exposé sur le capitalisme, qui a plein de défauts, mais qui a au moins cette espèce de courage de juste en fait tenir 30 minutes d'exposé sur le capitalisme, de pause dans un film comme ça, et juste de parler de ça. Et en fait, je trouve que le film tente ces trucs-là avec la mise en scène, et en fait, dans juste la structure de son scénario, derrière, se restreint au contraire. Et je trouve que du coup, là, il se casse la gueule, et là, il me frustre beaucoup.
Alors, moi, pour terminer sur les avis généraux sur le film, j'ai rien contre l'idéalisme du film, contre son côté conte philosophique, parce que c'est son principe, tout simplement. Là où je te rejoins pas, Aubry, c'est que je trouve que il prétend pas être autre chose. C'est-à-dire que toi, vous appuyez sur la dichotomie entre les deux. Non, pour moi, effectivement, il assume d'emblée d'avoir cette ce côté conte presque typiquement voltairien de jardin, etc. Le problème, c'est qu'un conte typiquement voltairien, ça dure pas 3h20. Et là où il réussit, c'est justement dans la mise en place de ce lieu, de ce jardin qui réalise l'utopie à l'intérieur de la ville et dont il est en fait assez difficile, je me suis rendu compte, d'établir une cartographie mentale. C'est-à-dire qu'il arrive à Hamaguchi à trouver des cadres toujours différents pour filmer le jardin, et en fait, vraiment l'impression que le truc est immense, alors qu'au fond, non. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez fort dans le refus de rendre l'espace intelligible et en gros d'assumer à fond la création d'un espace idéal qui se révèle à la fin par un plan d'envol, je sais pas si c'est probablement en drone du coup, qui révèle en fait cette cour à l'intérieur de la ville, à l'intérieur de Paris. Je redirai pas le mot d'hétérotopie parce que j'ai déjà utilisé ailleurs dans un des autres épisodes de cette série de podcasts et je viens de le faire pourtant. Mais pour en revenir au film plus généralement, j'en étais sorti assez enthousiaste, j'avais passé un très bon moment et
Chose étonnante, alors qu'il était 8h30 du matin et que j'avais que 4 heures de sommeil dans le corps. J'ai pas dormi ni même somnolé une seule seconde. L'opinion que je... Mais, en dépit de ce bon moment, l'opinion que j'en avais, c'est de plus en plus défaite, sinon même délitée, à mesure que la semaine cannoise avançait. Opinion entamée par vos avis en demi-teinte, voire... par des avis franchement hostiles, je ne dirais pas de qui, mais ce n'est pas de vous deux, et tout simplement parce qu'effectivement, à y bien réfléchir, moi je n'arrive pas à comprendre, et en même temps c'est la force du film, hein, mais j'arrive pas à comprendre ce qui m'a intéressé dans ce film, qui professe sans ambiguïté les vertus de l'humanitude et d'une espèce de communauté fondée sur le toucher, qui m'a profondément embarrassé par moments, étant assez peu sensible moi-même au moment de partage communautaire sur le mode du massage, du câlin, et globalement de tout ce qui est tactile, hein, pieds, dos, voilà, enfin, faut aimer les pieds, hein, pour aller voir le film, je vais pas vous mentir, en tout cas, faut pas les détester. Bref, et je trouve au contraire, vous laissez rebondir là-dessus, je trouve au contraire le film en tout cas beaucoup plus réussi quand il s'efforce de nouer des liens ou de donner du sens à cette communauté sur le mode de la parole qui tisse des liens très intéressants. Voilà.
En fait, c'est terrible parce que plus on en parle, plus à la fois je me souviens de la sensation devant le film qui était finalement assez agréable, plus je suis quand même... Enfin, en fait, ce film m'énerve. Enfin, je ne suis pas d'accord avec lui. Et je pense qu'en fait, tout est dans le terme que tu as utilisé, Louis, de conte philosophique. Et même, Aubry, tu parlais de leçons. Et bien justement, en fait, le problème est là, je crois. Parce que le film, ok, veut être un film... À la limite, en fait, si on part du principe que c'est un conte philosophique, il y a beaucoup de choses qu'on peut accepter, du coup. Mais... je trouve ça quand même compliqué de rester sur ce principe du conte dans le sens où les relations sont très très développées et du coup on perd aussi un peu le fil rouge de l'humanitude. En fait, pendant tout un... Enfin, en fait, on parle beaucoup de l'EHPAD, mais pendant tout un moment on le voit plus. Enfin, c'est vraiment que le duo des deux femmes et la fin l'efface un peu plus. Enfin, en fait, je sais pas comment dire, mais... Le film est assez... Enfin, il construit vraiment de manière étrange parce que vraiment, justement, il prend le temps de construire les relations et tout machin, ce qui est super. Mais donc, on dépasse cette question un peu plus de la leçon pour tomber dans un truc plus... Enfin, sentimentaliste et tout machin. Et là, moi, ça me perd complètement dans le sens où... À regarder, bon, c'est sympa, c'est bien filmé, c'est bien joué, enfin voilà. Mais leur relation, moi, me paraît... Mais... complètement idéaliste aussi pareil, tout est, en fait vraiment tout est hors sol et puis après elles vont au Japon, enfin on sait même pas comment, enfin en fait il manque, ok, mon problème est que alors que tout est très organique, on parle de la mort, on parle des vieux, on parle même de questions d'argent au début et du fait que l'humanitude justement qui est quand même pourtant, enfin je veux dire, ça serait la base dans le milieu du soin, enfin de porter des soins de manière un peu plus réfléchie. Là finalement elle explique que bah voilà, le problème de sous et tout machin font que bah ils font ça à la chaîne et que les vieux finalement ne sont plus que des choses. Et tout ça n'apparaît pas en fait. Enfin je sais pas comment dire, c'est vraiment que des mots. Et à l'écran, tout est là, tout est posé, tout est calme. Les deux, trois embrouilles qu'il peut avoir, bon, bah, on comprend des deux côtés, et puis finalement, il y a une espèce de consensus qui se crée. Il y en a qui partent, mais... Je sais pas, Marie-Lou, elle est un peu déçue, mais au final, ça change rien. Enfin, je sais pas, je trouve ça très, très étrange, en fait, dans le propos et dans... Enfin, ouais, c'est... À la limite, la chose la plus organique qu'on a encore et qui, je trouve, finalement, est une des plus belles, c'est la relation entre le grand-père et son petit-fils, qui, là, est vraiment... J'aurais peut-être pas cru, mais qui est vraiment très... Oh, je sais pas comment dire. Ouais, sincère. Sincère, tout à fait. Mais je pense que les relations entre les deux femmes sont très sincères aussi, mais c'est une sincérité hors sol. Alors que là, la sincérité, elle est... Il y a les problèmes, il y a le petit-fils qui part en courant, il y a le petit-fils qui dérange toutes les scènes, il y a le petit-fils... Enfin, mais sinon, ouais, c'est un peu... Je sais pas, c'est très bizarre comme film.
Ouais, et puis, comment dire, moi je suis complètement d'accord, et je trouve qu'en fait, ça se contient dans deux scènes, deux moments du film. La première, alors je les prends dans le mauvais ordre chronologique, mais la première, c'est une scène qui arrive tard dans le film où, comme tu l'as dit, Claire, Efira et Okamoto partent au Japon. Et c'est vraiment un moment où juste Enfin, je veux dire, on vient de se taper 30 minutes de discours sur le capitalisme. Le film n'arrête pas de nous mettre en scène, en gros, les soucis plus ou moins matériels et le côté, en gros, enfin, comment concilier les soucis matériels et le fait bah, juste de pratiquer des soins humainement et dignement dans la société capitaliste, etc. Et en même temps, Virginie Efira, elle prend son avion pour le Japon, comme moi je prends le métro pour aller à Saxe Gambetta le matin. Et juste le film, ne le pense pas. Enfin, en fait, c'est même pas un sujet et...
Je dis c'est quasiment Yoroi en fait, quand juste Orelsan il dit bah on va au Japon et il est au Japon dans le plan.
C'est exactement ça, c'est Efira qui dit allons, non mais elle est là et en mode non mais, mais je vais te suivre au Japon, c'est pas grave. Ouais, comme tu dis Claire, le film se pose un peu comme une leçon et en même temps il pense pas du tout ces aberrations là. Et alors c'est très beau hein, les séquences au Japon, même l'histoire dramatique ou mélodramatique entre les deux personnages elle-même est très belle et très forte. Mais juste à ce moment-là, du coup, t'es en mode, mais enfin, le film me prend un peu pour un con quand même là. Et ouais, il y a juste ce truc de le personnage de Virginie Efira, c'est merci patron, tu vois, c'est le patron qui est pétri de bons sentiments, qui fait le travail sur soi, etc. Et le film, enfin, sur une bonne partie, le tire assez bien ce truc-là. Et juste en fait, par moment, le film en gros sort le Joker de. C'est un patron en mode bah oui c'est magique ta gueule et il le critique jamais. Deuxième moment c'est sur Claire, t'as mentionné les personnages qui partaient au tout début du film, donc c'est pas vraiment un spoil. Au tout début du film en gros il y a plein de tensions dans l'établissement parce que les méthodes d'humanitude bah logiquement en fait font débat et il y a une infirmière, je crois, qui quitte l'établissement et qui explique que, bah, en fait, non, c'est pas viable, que ne peut pas continuer comme ça et que Virginie Efira, elle est très sympa, mais ça va pas marcher et tout. Et en fait, c'est très drôle parce que cette personnage-là incarne un peu, je trouve, ce que voudrait faire le film et en même temps, le film l'évacue à la 15e minute, en gros, quoi. Et je trouve ça tellement frustrant et énervant de mettre en place tout un truc sur 3h15 comme ça et qui a un côté entre la leçon, le conte philosophique, l'utopie, on peut appeler ça comme on veut et qui en même temps en fait a littéralement toutes les cartes en main pour faire un truc concret, matérialiste et genre traiter son sujet quoi, et juste il l'évacue sous nos yeux et juste ça m'énerve.
Mais là où Ryosuke Hamaguchi par contre est très fort, c'est pour écrire des scènes de dialogue. Enfin, on en a parlé et pour aller un peu en profondeur là-dedans. Moi, je trouve que c'est amusant d'ailleurs de voir comment une de ses marques singulières, en tout cas des films que j'ai vus de lui, qui est la longue discussion entre deux personnages en voiture, réduite à deux ou trois plans, dans la première partie du film. Ici, elle devient une discussion sur un mode beaucoup plus piéton, adapté à la ville de Paris. Et c'est ce que tu disais, Aubry, il y a un côté très fluide dans l'enchaînement des plans, ça épouse parfaitement le décor du quartier de Bercy, des plateformes de la BNF, des quais de Seine, etc. Ça glisse insensiblement d'un cadrage à l'autre pour ne nous concentrer que sur les propos des deux femmes. Et dans un autre registre, j'ai beaucoup aimé aussi les scènes de réunion avec les personnels de l'EHPAD, parce que là, on atteint ce matérialisme qui fait défaut que vous évoquez tous les deux. En tout cas, c'est là qu'on en est le plus proche. On retrouve la disposition en fait, de Le Mal n'existe pas, où il y a deux personnes en situation de pouvoir qui doivent gérer une crise ou simplement des échanges avec les gens en face qui ne sont pas d'accord. En fait. Et dans les deux scènes de ce genre-là qu'on a dans le film, on atteint, je trouve en tout cas, une espèce de réalisme patient, à la fois lent et fructueux. En termes de conclusion, c'est ce que tu disais Claire, bah, finalement on a juste échangé des points de vue, c'est très consensuel et il n'y a pas de... Voilà. Mais on a quand même une forme d'accès à des enjeux du monde du travail ou du monde du travail de la santé dont on n'est pas le plus familier, et y compris dans les drames fictionnels, enfin dans la fiction et films qui se passent dans le monde de la santé qui sortent. Je veux dire, c'est pas justement Léa Drucker en chef de service hyper stressé, là c'est juste des gens qui discutent et qui disent bah, « moi je suis pas d'accord, je suis pas content, etc. etc. » Mais là où, par contre, c'est inférieur à celle du Mal n'existe pas, par exemple, c'est que, bah, en fait, on n'en apprend pas beaucoup plus sur les personnages, sur leur histoire, sur leur monde personnel. En tout cas, pas plus qu'il n'est nécessaire pour l'intrigue, et ça, c'est un peu dommage. C'est-à-dire que Sophie, à la fin du film, il y a un moment où elle se présente un petit peu, etc. Mais sinon, elle est vraiment, elle a un côté fonctionnel. Et ce qu'il y avait de chouette dans Le Mal n'existe pas, c'est que les mots des gens interrogés débordaient l'enjeu dramatique pour espier, en fait, en gros, enfin, pour faire signe vers un hors-champ qui était abordé, en fait, dont on devinait plus ou moins l'intimité, etc. Et il y a un peu rien de tout ça ici, quoi.
Ouais, bah, je suis que d'accord avec toi, Louis. Et je trouve justement que c'est la grosse discussion qu'elles ont là, les deux, dans les rues de Paris et tout, en est vachement diminuée justement par rapport aux scènes dans l'EHPAD, qui sont, en fait, pour moi, dès que c'est dans l'EHPAD, c'est vraiment bien meilleur que tout le reste. Et que là, cette scène dans Paris, hyper, enfin, très esthétisante, carte postale, enfin, moi personnellement, m'a un peu saoulée, enfin. Ouais, enfin, genre, enfin, je sais pas, mais vraiment, on souffle un peu, et puis tout ce qu'elles se disent, c'est vraiment sur un ton, je sais pas, tout est comme ça, très lent, très, tout le monde prend son temps, ouais, très artificiel, ouais, exactement, tout à fait, et en fait, je sais pas, en fait, c'est ça qui est dingue dans ce film, c'est que, malgré tout ça, là on dirait que j'ai détesté, j'ai passé un bon moment, et en fait, c'est pour ça qu'il est trop fort, mais, ah, bref, je sais pas comment plus. Enfin, c'est juste frustrant et ouais. En fait, l'artificiel à la limite aurait pu peut-être tenir dans une forme plus courte. Et que là, vu que c'est une forme longue, bah finalement ça. En fait, il y a une espèce d'entre-deux très bizarre.
Mais surtout que je trouve que, enfin, moi je trouve que l'artificiel, il est pas assumé encore une fois. Enfin, je veux dire, enfin, alors factuellement, il est assumé parce qu'il le tient pendant 3h15, hein. Mais en même temps, il est pas assumé dans le sens où. Il fait comme si c'était pas le cas, je trouve. Et effectivement, enfin, on n'a pas arrêté de dire que ça avait un côté idéaliste, utopique, etc. Je trouve que le film, enfin, prétend pas, enfin, en gros, arrête pas sa prétention-là, pas du tout. Je trouve que le film, enfin, moi, j'ai vraiment l'impression, en tout cas, que le film prétend à beaucoup plus alors qu'en fait il fait tout le contraire. Et même justement dans ces séquences de discussion d'EHPAD, t'as dit à raison que le personnage de Sophie faisait très fonctionnel. Enfin, pour moi, c'est le gros problème du film, c'est que c'est vraiment, encore une fois, c'est le film qui se souvient qu'il nous tient des discours matérialistes et marxistes pendant 3 heures, et en fait qu'à un moment, ah putain, en vrai, c'est vrai qu'il faudrait peut-être que je propose le point de vue des employés et pas que du patron. Et de fait, enfin, les séquences de discussion avec Sophie, moi, elles m'ont mis mal à l'aise. Déjà un peu pendant la séance, mais surtout après en y repensant. Parce qu'en fait, je trouve qu'elles sont d'une condescendance, mais atroce. Et c'est pas juste la condescendance du personnage de Virginie Fira, qui, alors déjà, j'ai même pas l'impression pour le coup que ce soit voulu par le scénario, enfin, que le scénario soit conscient de cette condescendance. Enfin, en gros, j'ai l'impression que pour le scénario, quand Virginie Fira vient s'épancher sur ses sentiments auprès de ses employés et les tunnels pendant 15 minutes sur ce qu'elle ressent, enfin, pour moi, j'ai l'impression que le film est d'accord avec Fira et qu'en fait, il est là en mode oui, mais justement, en gros, c'est ça, l'humanitude, machin. Alors qu'en fait, factuellement, elle est en train de tunnel ses employés alors qu'elle a des conditions beaucoup plus privilégiées que ces derniers, sans prendre en compte, en fait, ses employés. Et en train, enfin, elle juste a dit « moi je » pendant 15 minutes. Et voilà, et je trouve qu'en fait, le film embrasse cette condescendance assez dégueulasse, alors que justement, il passe 3 heures à nous expliquer qu'il veut faire le contraire et que ce serait très chouette de faire le contraire. Et si le film était conscient de ce travers-là, ben en fait, il pourrait l'afficher comme quelque chose, bah, justement, de mélancolique, presque. Enfin, de, bah, en fait, oui, c'est utopiste et en fait, c'est trop compliqué à faire ou c'est pas possible ou, enfin, ce genre de mode, quoi. Et non, le film est juste là en mode, bah oui, c'est très chouette, il faut faire ça, c'est génial. Alors que pas du tout. Enfin, je veux dire, c'est juste ces personnages reconduisent les travers qu'ils dénoncent et le film tombe dans le côté, ouais, enfin, une espèce de disserte de cagne imprégnée de, entre guillemets, de bons sentiments anticapitalistes et marxistes et tout, mais qui est complètement déconnectée des réalités qu'il prétend filmer.
Ouais, en fait, c'est exactement ça. C'est que tout le monde est hyper conciliant avec Virginie Fira, mais de manière, mais vraiment tout le monde. C'est-à-dire que même ses patrons au-dessus, les gens en dessous, et nous, finalement, à la fin, parce qu'il y a ce truc du bon sentiment qui est très bien qui est bien écrit, bien filmé, et que Virginie Fira, vraiment, en fait, elle est hyper sympathique à l'écran. Elle est juste, t'as envie de bien t'entendre avec elle.
Toi aussi, t'as envie de passer la nuit avec.
Oui, voilà, exactement, de profiter. Enfin, et donc, bah, c'est ok. Et en fait, sauf que non. Enfin, je suis désolée, mais que ça soit au début, à la fin, la situation finalement évolue, mais pas tant que ça. Enfin, elle évolue parce que elle amène sa copine dans l'EHPAD et que elle a un laissé droit, c'est ça le mot. Enfin bon, bref. En fait, c'est ouais voilà. Plus en fait, il faut qu'on arrête de parler de ce film parce que plus on en parle, plus c'est énervant, je trouve, à quel point en fait c'est déconnecté. En fait, c'est très compliqué de savoir ce qu'il veut dire par rapport à comment il le dit et par rapport à ce qu'il dit. Enfin, je sais pas, les trois sont pas accordés et ça donne un mélange bizarre.
Pour terminer dessus, peut-être en tout cas moi un dernier mot que j'aurais à faire, c'est sur la question du théâtre dedans. Le problème principal de Soudain, c'est qu'au-delà du personnage de Sophie, c'est tout en fait qui fait système et tout qui est fonctionnel. Et il y a peu de place laissée à l'improvisation et aux histoires racontées. En fait, je trouvais ça qui est dommage parce que dans un documentaire de Hamaguchi qui fait au début des années 2010 qui s'appelle Storytellers, il y a des vieux là aussi et ils sont chargés de raconter des histoires, d'inventer des récits, de les improviser, etc. Et le temps est long et ils coupent pas et même si les vieux se répètent, et comme dans un épisode du comptoir du cinéma, ils coupent pas. Et les moments de libre-jeu dans Soudain sont vraiment ceux des personnes âgées, comme cette pote de Marie-Lou qui est très drôle et qu'on a au début et à la fin du film, qui est peut-être les seules à avoir toute sa tête. Et étrangement, ici, en fait, les personnes âgées sont pas du tout au cœur du film. C'est ce que tu disais, Claire, sur le fait que dès qu'on quitte souvent quand même cet EHPAD. Et elles deviennent presque un prétexte. Et de même pour la pièce de théâtre, qui devient une sorte de pièce à thèse, qui déroule son message et son propos, en plus... Pardon, mais ça c'est mon propre problème. Mais évidemment, mettre en scène une utilisation anormale de chaises, ça reste du théâtre contemporain. Bref, cette pièce, elle a rien à voir en tout cas avec la double take réac, avec la puissance qu'avait Oncle Vanya dans Drive My Car, puisqu'en fait, Vanya ne parle a priori pas du tout de ce dont parle le film Drive My Car et évitait la répétition. Et ce faisant, il signale la beauté, la force du texte de Tchekhov. Ici, en fait, la pièce, c'est comme cette discussion sur les externalités négatives du capitalisme. Ça sert de préparatif à la justification de l'hétérotopie finale, de ce monde clos sur lui-même, etc. etc. Il n'y a jamais rien qui est fait en pure perte dans le film. Ce que j'aimais bien, justement, dans le temps long de Hamaguchi, dans d'autres films. C'est-à-dire que là, le film, soudain, il avance par symptômes, comme les symptômes du burn-out que l'adjoint identifie chez Marie-Lou au début. Et c'est ça qui le rend boiteux. Et sur ces belles paroles, c'est la fin de ce 7e épisode du comptoir du festival. Merci Claire, merci Aubry. Merci beaucoup à Smila, Élise et Corentin qui nous ont permis pour Transistor de couvrir et d'assister à ce festival. Merci aux auditeurs et aux auditrices. On se retrouve très bientôt pour un prochain numéro du comptoir du festival où on évoquera la section Cannes Classics en compagnie de son responsable Gérald Duchaussois. Restez donc branchés Transistor car ce sera bien évidemment disponible sur transistor.fr et sur toutes vos plateformes de podcast. D'ici là, portez-vous bien et partagez-nous. Vive le cinéma et vive Transistor.